Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour notre invité.
Notre invité, Zvonimir Novák, professeur d'art appliqué spécialisé.
Voilà, je ne voulais pas écorcher son nom, voilà. Et bonjour Justine.
Bonjour Catherine.
Et bonjour à tous.
Bonjour
à tous.
Spécialiste de l'image, de l'imagerie politique, journaliste et auteur d'un ouvrage assez délicieux qui s'appelle Le Grand Cirque électoral, 240 pages avec une très 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 riche iconographie aux éditions L'Échappée sur les élections et surtout leur contestation. Et c'est avec vous que nous allons décrypter une actualité assez croustillante parfois, puisque c'est la tâche de Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et pour commencer, comme d'habitude, un bout d'un cancou de la semaine.
Ségolène Royal a révélé sur Facebook que l'exécutif envisageait, je cite, de mettre fin à sa mission d'ambassadrice des pôles si elle continuait ses critiques répétées contre le gouvernement.
Oui.
Bonjour Ségolène Royal.
Oui, bonjour madame, bonjour monsieur, actuellement sans emploi, je me permets de passer parmi vous afin de vous demander une petite pièce ou deux pour manger, rester propre, voire même un ticket restaurant me ferait plaisir, me permettrait de rester digne.
Attendez, madame Royal, enfin vous n'êtes pas encore au chômage, le gouvernement envisage de vous virer et vous continuez à les critiquer, mais c'est pas encore acté tout ça.
Hein. Ah bon? Est-ce que vous croyez que je vais fermer ma gueule? Enfin Julie, on se connaît depuis On se connaît depuis une paye quand même, depuis longtemps. Hein, donc je le dis, on chiote Macron, voilà. Ça y est, hein, je suis viré, c'est ça.
Bon, ok, vous êtes viré, alors. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes délivré, libéré?
Écoutez, je ne sais pas, peut-être partir en vacances. Essayer de... Depuis le temps qu'on m'en parle, tiens. Vous savez quoi? J'aimerais bien visiter le pôle Nord. Oui, on est entre nous, maintenant que je suis viré, je peux vous le dire. Hein, je n'y ai jamais foutu les pieds. Hein.
C'était ce mercredi sur Europe 1, et puis après il a reboloté en faisant l'ambassadrice des poules, en l'imitant, et du coup il y avait une poule, les bruits de poule en régie. Bon, blague à part, ça a fait un buzz considérable pendant toute la semaine, ça a été un des sujets de la semaine, à la fois... Le fait qu'on pousse Ségolène Royal à la démission ou qu'on la démissionne purement et simplement, et le fait qu'elle se pose en éventuelle future figure pour la gauche. Comment est-ce que ça a fait réagir notre invité?
Moi, ça m'amuse, hein, bien entendu, parce qu'on la voit, on la revoit, elle revient, elle repart, elle tourne en rond. Enfin, voilà. Et moi, j'en suis encore à sa campagne présidentielle avec Désir d'avenir, où. Sur des affiches, on voyait un ciel bleu, un petit peu vide, comme ça, avec des nuages, et où sur son site de campagne, on pouvait retrouver des préservatifs, désirs d'avenir, des stylos, bien entendu, des goodies absolument extraordinaires. Alors j'ai essayé d'ailleurs j'ai acheté d'ailleurs des préservatifs désirs d'avenir, je n'ai jamais reçu.
Ah bon?
Voilà, donc
je veux dire, je les ai jamais mis. Non, non. D'accord. Et Catherine, nous avons connu des temps, et beaucoup d'auditeurs avec nous, dans lesquels, pour être élu président de la République, c'était pas mal d'avoir échoué, parce qu'on y allait à la persévérance, comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac. Hein, c'était à la troisième fois qu'on y arrivait. Ouais. Et puis là, depuis quelque temps, on pourrait dire en tout cas depuis une vingtaine d'années, ou presque, les présidents ne sont pas réélus, et on a l'impression que c'est le turnover permanent, le dégagisme. Est-ce que ça rend impossible pour Ségolène Royal un vrai retour en situation d'éligibilité, ou est-ce que non? Est-ce que tout est quand même possible, y compris cela?
Bah, écoutez, elle voudrait revenir, son échec c'est 2007. Alors... Mmh. 2022, ça fera 13 ans, 15 ans, je ne sais plus. Donc, ça va être difficile. Mais ce qui est fascinant chez Ségolène Royal, qui a baptisé sa campagne Désir d'avenir, c'est qu'elle est un peu comme Madame de Maintenon qui disait « Je ne mets pas de borne à mes désirs ». C'est-à-dire qu'elle a toujours envie d'être là, vous voyez, qu'elle en veut. Et vous voyez, depuis quelques mois, elle a essayé d'être tête de liste chez les socialistes pour les européennes. On n'a pas voulu d'être. Elle a fait des propositions aux Verts qui n'ont pas voulu d'elle. Et puis elle-même, si vous voulez, elle a espéré beaucoup de Macron pendant un temps. Elle aurait voulu succéder à Hulot, ça n'a pas été possible. Et quand, après l'échec de Sylvie Goulard à la Commission européenne, elle a téléphoné à l'Élysée, elle se proposait d'être candidate, elle se serait bien vue à la Commission européenne. Voyez.
Mais alors, ça c'est donc, un bon signe, Catherine, parce que moi je connais la loi Catherine Ney, qu'une condition première, oui, avant tout autre, pour avoir une chance d'accéder au pouvoir, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la loi Catherine Ney.
Elle en a envie, mais à condition que l'envie soit partagée, vous savez bien. Donc c'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, elle fait du buzz quand elle parle, parce que c'est un personnage, vous voyez, c'est une guerrière, ça amuse.
Transgressive aussi, un peu.
Transgressive, hein. Oui, elle n'a jamais tort, elle a un caractère épouvantable, elle se fâche avec tout le monde. Enfin, je rappelle le mot de Hollande, qui la connaît bien, qui la soutient d'ailleurs aujourd'hui, dans ses il y a ego. Donc c'est un personnage quand même hors norme, si vous voulez. Mais là, je pense qu'elle a pris les devants parce qu'elle savait très bien qu'elle ne faisait pas le job. Être ambassadrice au pôle, c'est beaucoup de voyages et qu'elle n'avait pas envie de faire. Et puis être ambassadrice, c'est un mot, mais elle n'avait pas d'ambassade. Elle avait un bureau au Quai d'Orsay, c'était bénévole. Vous voyez, elle trouvait que le retour sur investissement était faible. Donc, moi, je pense qu'elle a plutôt envie de prendre sa liberté et essayer, après tout, d'être candidate. Parce que je ne vous avais pas dit que c'est Olivier Faure qui va être candidat, qui peut être candidat. Il faut quand même une personnalité qui l'emporte. Est-ce qu'elle a ses chances? Moi, j'en sais rien. En tous les cas, elle pense qu'elle a des chances.
Zvonimirnova, qu'est-ce qu'elle a suscité en graffiti, en affichette, est-ce qu'elle a suscité beaucoup de choses hostiles ou assez peu dans le passé?
Oui, bien entendu, puisque sa campagne était une quasi-non-campagne. Et surtout, ce qui s'est passé lors de ces présidentielles, c'est qu'il y a eu une espèce de confusion des sources de construction de campagne. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait son fils, de l'autre, il y avait les jeunes et socialistes. Enfin, et après, il y avait Désir d'avenir. Donc, on a eu une confusion de l'image comme rarement on a vu.
Et ça n'a pas trop nuit, si. Ou alors on peut dire l'inverse, on peut dire oui, ça a nuit, peut-être que si ça avait été mieux, elle aurait fait encore mieux.
Et ça a totalement nuit à l'image, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas qu'une image, il y en avait beaucoup. Et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy avait créé, il avait une image fixe, précise, très claire, et ça n'a pas fait un pli.
Donc je résume, loi numéro 1, désir, c'est la loi Ney, là. Elle l'a satisfait. Loi numéro 2, pas de confusion d'image. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais pendant ce temps-là, continue une actualité un peu plus grave, un peu plus critique. On y vient dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, dans Mediapolis. Ce samedi, vous êtes accompagnés par le journaliste et professeur d'art appliqué, Zvonimir Novak, auteur du livre Le Grand Cirque Électoral, une histoire visuelle des élections et de leur contestation aux éditions L'Échappée.
Et là, nous en venons à des sujets nettement moins réjouissants, à différentes formes de violences dans notre société. Et d'abord, les violences policières, puisqu'il y a eu un tournant dans le discours et l'attitude du pouvoir sur le sujet. Si on résume les faits les plus marquants, le 3 janvier, un livreur en scooter a été interpellé, proféré des insultes, etc. Il a été mis à terre et il est mort asphyxié. Le 9 janvier, un CRS a tiré une LBD à bout portant. Le 11 janvier, et là il y a une vidéo déjà, ce qui complique les choses pour la police, une étudiante à sa fenêtre est en train de filmer du 4e étage et on la vise. Et on lui tire une grenade lacrymogène qui explose dans sa fenêtre. Et le 9 janvier, il y avait un autre événement encore plus répandu sur les réseaux sociaux, qui était le croche-pied fait par un CRS à une jeune femme qui, du coup, est tombée. Et après un long temps pendant lequel le ministre de l'Intérieur d'abord refusait l'expression de violence policière, ensuite disait que tout ça était de la faute aux manifestants, qu'il n'y avait pas de problème, ou ensuite qu'il pouvait y avoir quelques erreurs individuelles, mais rien de plus, le président de la République a changé et est intervenu depuis Pau ce mardi.
J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. Il y a eu très clairement des images, il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité, la dignité d'un professionnel des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance.
La vidéo du croche-pied dont je parlais tout à l'heure a été visionnée dans les 5 heures qui ont suivi par 3 500 000 personnes. Et regardez, le plus intéressant dans la déclaration du président de la République, j'imagine que vous êtes absolument d'accord avec nous, Zvonimir Novak, il y a eu très clairement des images. Oui. C'est-à-dire que ce qui fait changer le discours et ce qui fait intervenir le président de la République, ce sont ces millions et ces millions de vues d'images de violences policières.
Oui, effectivement. Alors, moi, je suis habitué des manifestations parce que je vais, dans ces manifestations, récolter du matériel de campagne, des slogans, des affiches, des tracts et des stickers. Et je n'ai jamais connu ce sentiment de violence et d'extrême violence qu'on peut avoir aujourd'hui à l'intérieur de ces manifestations. Ce qui me frappe, c'est que les émeutiers, parce qu'il s'agit de ça depuis un certain temps, et les insurrectionnalistes, c'est des gens qui prônent l'insurrection, prennent des selfies en permanence. Et on les voit, en même temps qu'ils lancent un pavé, le copain prend des selfies, et c'est assez surprenant. Donc ils attendent la moindre violence policière, oui, pour les prendre en photo et les passer sur les sites de l'ultra-gauche et d'ailleurs de l'extrême-gauche qui prolifèrent aussi aujourd'hui.
Catherine ?
Oui, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est vrai, c'est les images. Et je dois dire que les images du croche-pied de la jeune femme, c'était très choquant. Et puis cet homme qui est mort, qui était où 4 policiers étaient sur lui, il était à terre, on le voit presque mourir en direct. Alors c'est ça qui est très... C'est terrible, quoi. Ça c'est vrai. Et donc,
d'ailleurs, pour compléter sur le sujet, la jeune femme, la jeune étudiante à sa fenêtre qui se fait tirer une lacrymo, c'est parce qu'elle est en train de filmer. Oui. C'est-à-dire que c'est un cercle infernal, un cercle vicieux dans lequel les policiers ne veulent pas être filmés.
Ne veulent pas être filmés,
ce qui accroît
leur énervement.
Si on ne filme qu'un petit bout, on ne peut avoir qu'un bout de l'image, qu'un bout du récit qui déforme. Ça peut arriver aussi.
En revanche, là, un policier est mort parce qu'il est écrasé par un fourgon et il n'y a pas eu d'image. En tout cas, elles ne sont pas passées en boucle sur les télévisions pour qu'on puisse que l'indignation soit au moins partagée des deux côtés. Et là, c'est un homme qui est mort, un père de famille. Donc là aussi, alors je ne dis pas que match nul, puisqu'il y a deux morts, mais je veux dire, c'est ça qui est terrible. Et comment fait-on aujourd'hui, comment les forces de l'ordre, parce que ce sont des gens qui sont face à des émeutiers, qui ont eux aussi des mêmes problèmes de pouvoir d'achat, de difficultés de vie, c'est pas des gens qui sont souvent issus d'un même milieu, d'une même classe sociale, et on voit cette haine entre les uns et les autres. Et je pense qu'elle est réciproque. Vous voyez, les émeutiers détestent la police, mais maintenant la police déteste les émeutiers. Oui. Et donc c'est ça, la violence engendre la violence, et c'est immaîtrisable, même si le préfet donne des ordres de se tenir. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, voyez. Et donc, et ça fait peur, parce qu'on dit quoi ? On va vers une guerre civile ? On va vers quoi ? Voilà.
Oui. Alors, ce qui est tout de même le plus inquiétant, c'est qu'on est dans une espèce de cycle, mais qu'on connaît depuis longtemps, parce que c'était déjà ça en 68, c'est le cycle de provocation, répression, mobilisation. Et c'est un jeu que certaines parties, enfin notamment de l'extrême-gauche, qu'on pense morte et qui est extrêmement vivante aujourd'hui et qui occupe le terrain et les terrains des manifestations, joue à plein.
Mais vous me disiez quand même que la différence, c'est qu'il n'y avait pas d'appel au meurtre.
Oui.
En 68, les étudiants, ils ne demandaient pas, ils ne se promenaient pas avec la tête du général au bout d'une pique.
Oui, c'est
tandis
ça.
Que là, ce qui est nouveau...
Vous avez dit ça en préparant l'émission, que vous avez vu des images relativement inédites dans leur violence au compte de Macron, vous pouvez préciser ?
Ah oui, alors tout à fait, c'est-à-dire j'ai tous ces documents, j'ai des stickers, j'ai des visuels de toutes sortes, et puis il y a des affiches dans les manifestations où Macron est représenté en Louis XVI. Et il y a eu des semblants de guillotinade, c'est-à-dire mais ça c'est connu parce que c'est des images qu'on a vues, où il y a des guillotines en carton qu'on balade à l'intérieur des manifestations. Il y a une vraie violence, c'est une violence régicide, en fait.
C'est ça qui est nouveau, c'est pas tellement la représentation en monarque, c'est on passe à Louis XVI et à la décapitation. On y revient dans quelques instants, avec aussi du coup une réflexion sur...
Commencé avec les gilets jaunes, hein. Déjà des gilets jaunes montraient la tête du président Macron.
Et on va relier ça à l'évolution du mouvement dans 2 minutes.
Médiapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec également votre invité ce samedi, Zvonimir Novák, professeur d'art appliqué, journaliste, qui vient de publier Le Grand Cirque électoral, une histoire visuelle des élections et de leur contestation aux éditions L'Échappée.
Et Zvonimir Novák, vous nous disiez que donc, en fait, vous êtes aussi journaliste de terrain, qui va chercher partout toute forme de propagande politique pour nourrir vos travaux, vos cours, vos livres. Et vous disiez qu'il y a un cran qui a été franchi dans la violence symbolique à l'encontre d'Emmanuel Macron. Vous pouvez préciser ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plus qu'un cran, puisque c'est des appels à la décapitation, c'est des appels à le chasser du pouvoir. Et je pense qu'on n'est plus dans cette longue grève qui a commencé depuis 50 jours à peu près, hein, je pense. On n'est plus du tout dans un problème, dans une problématique de retraite, on est dans autre chose. On est dans comment chasser du pouvoir quelqu'un qui gêne.
L'actualité illustre une partie de ce glissement, puisque nous avons eu avant-hier, sauf erreur de ma part, une intrusion à la CFDT, puisqu'il y a débat pour savoir s'il y a eu agression ou pas, mais une intrusion
par la CGT,
Sud surtout, par si Sud, j'ai bien vu, par Sudrail, par des syndicalistes de Sudrail. Il y a eu le président de la République chahuté au Théâtre des Bouffes du Nord et qui a été obligé d'en sortir pendant un moment. Et on nous annonce ce matin que les restaurateurs du restaurant La Rotonde, celui où il était le soir dont il est un habitué, aurait été victime d'un acte criminel avec un incendie à l'intérieur du restaurant. Aurait été à vérifier, puisque pour l'instant, on a juste une première indication en sens. Donc, est-ce qu'on va, au fur et à mesure de l'extinction, d'une certaine manière progressive, du mouvement de grève, avec quelques pics sur les journées de mobilisation particulièrement préparées, on ne va pas avoir l'apparition de ce que je pourrais presque appeler des grèves feu follet, c'est-à-dire des incendies, micro-incendies, la terminologie peut-être un peu excessive, mais des actes de violence symbolique en tout cas, pour protester ici, protester là, pour essayer de prolonger, finalement, ça peut être des semaines, voire des mois, le mouvement contre les retraites par des actions spectaculaires. La grève à éclipse et spectacle pour remplacer la grande grève qui s'essouffle.
Oui, moi je le pense que on a aujourd'hui Sud, le syndicat Sud, c'est tout de même un syndicat d'extrême gauche qui réunit des tas de petites organisations comme le NPA, Olivier Besancenot, les libertaires, et ils vont rien lâcher. Ils le disent, ils préviennent, ils veulent la révolution. Là, les choses sont très claires. Qu'importe les retraites, puisque de toute façon, le problème n'est pas là, c'est d'aller beaucoup plus loin, de monter en gamme, et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Et de l'autre côté...
Que là, c'est quand même une partie des gens de Sud, l'ensemble du syndicat Sud n'est pas sur la revendication de la révolution.
Non, non.
Et quand les candidats de ces partis se présentent aux élections présidentielles, ils font 1%. Hein.
Oui, tout à fait. On ne peut pas dire, bien entendu,
oui,
que...
Mais Sud n'a pas de candidat aux élections. Hein.
Ouais.
Je sais bien qu'il y a des gens du NPA et d'autres d'extrême-gauche au sein de Sud. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire le syndicat solidaire, d'ailleurs, dont le nom est solidaire, avec Sudrail, avec des syndiqués Sud dans l'enseignement, etc. On ne peut pas les réduire à un mouvement politique révolutionnaire d'extrême-gauche.
Oui, mais enfin, c'est cela.
Je ne dis pas ça seulement pour m'épargner quelques multiples critiques sur les réseaux sociaux qui sont toujours bienvenues parce que ça nous fait de la propagande. Donc, qu'elles continuent, ces critiques. Je dis ça pour essayer d'être proche de la réalité.
Oui, mais la réalité fait qu'on a un schéma qui est typiquement léniniste dans la stratégie, c'est-à-dire une avant-garde agissante et qui va agglutiner autour d'elle. C'est un schéma habituel. Voilà.
C'est amusant parce que vous êtes un peu sur une dimension implicitement critique quand vous dites tout ça. Et quand on lit votre livre Le Grand Cirque électoral, on se dit, quand on ne vous connaît pas, mais c'est un anarchiste ce type. Il ne fait que de nous montrer des trucs de critique du suffrage universel, d'élections, trahison, etc. Non, donc j'avais une fausse image.
Alors il y a une contradiction, non, mais c'est vrai, c'est qu'en fait, le Grand Cirque électoral, je l'ai écrit parce que j'ai très peur pour la démocratie, quelque part. D'accord. C'est-à-dire que j'ai très très peur de la détestation du politique, et je me méfie tellement des politiques justement qui se font détester et que les gens n'aillent plus du tout voter. Alors du coup, je milite pour une démocratie un peu plus directe, un peu plus participative, pour sauver un peu les meubles.
Et alors vous voyez, il y a une bonne nouvelle, quels que soient les discours sur la Révolution et quels que soient les discours contre la démocratie ou la crise de la démocratie, la crise de la représentation, c'est que même les forces politiques les plus extrêmes visent l'élection présidentielle. La preuve, dans deux minutes.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce matin, ils reçoivent le professeur d'art appliqué et journaliste Zvonimir Novak, qui vient de publier aux éditions L'Échappée Le Grand Cirque électoral, une histoire visuelle des élections et de leur contestation.
Et il nous disait, monsieur Novak, qu'on s'en prenait de plus en plus au roi et certains voulaient même le décapiter. En tout cas, le roi, on le critique, mais tout le monde vise le trône. De l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a quelqu'un qui est avant. Ça fait des pas en avant sérieux en deux temps. C'était d'abord dimanche, lors de la Convention nationale du Rassemblement national du même nom.
À ceux qui en doutent, qui croient que nous sommes venus cueillir du muguet ou des fraises, notre volonté est de parvenir au pouvoir.
Alors, c'est pas exactement qui était atteint d'un cerveau si restreint qui pensait que l'objectif de Marine Le Pen était de cueillir des fraises. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensaient ça. Mais pour ceux
non,
qui
mais il y a le muguet du 1er mai, toujours. Voilà.
Mais en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas compris, elle a annoncé qu'elle se préparait à l'élection présidentielle. Donc tout le monde a compris qu'elle était déclarée candidate, mais elle respecte son parti, il faut être investi par le congrès du parti, donc elle s'est déclarée prête. Pourquoi ? Pourquoi elle fait ça, Catherine ?
On pouvait se demander, parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Et qui doutait qu'elle serait candidate ? Personne. Elle n'a pas d'adversaire dans son parti. Elle est le numéro un de l'opposition. Déjà, les sondages l'annoncent au deuxième tour avec Macron. S'il est candidat, elle pouvait attendre 2021, qui est la date à laquelle son parti va lui donner la candidature. Alors, elle dit ça pour travailler, mais qui aurait empêché qu'elle travaille en silence, comme elle respecte un certain silence, et qu'elle s'annonce en 2021 en disant « Regardez comme j'ai travaillé, voilà mon programme, voilà ce que je vais faire ». Non, moi je pense que si elle intervient aujourd'hui, c'est parce que c'est une femme aux abois. Son parti est endetté de 30 millions d'euros et il va falloir rembourser. Or, le Rassemblement national n'a pas d'actifs. Déjà, il y a en 2011... Le siège du parti, le fameux paquebot, a été vendu pour payer des dettes, déjà, 11 millions. Et là, maintenant, 30 millions. Le Rassemblement national reçoit de l'État chaque année une dotation de 5 millions d'euros, qui est le chiffre qui correspond au nombre de voix qu'elle a fait aux législatives, c'est-à-dire moins qu'elle ne l'espérait. Mais elle doit rembourser cette année son père, qui lui a avancé 4 millions et demi d'euros pour les européennes, parce qu'il veut clôturer son parti.
Vous êtes sa banquière, en fait. Vous connaissez tous les comptes.
Non, je travaille, monsieur, c'est tout. Et alors donc, ça va se faire sous le contrôle de Bercy. Et moi, je pense que c'est... Et donc, elle a besoin d'argent. Donc, en annonçant sa candidature, elle espère pouvoir lancer une souscription, d'accord, surtout en disant « je peux gagner, qui sait ?» Et si jamais elle ne trouvait pas d'argent dans un an pour faire sa campagne ? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'obligation pour les candidats d'aller chercher de l'argent dans des banques européennes. Plus question d'aller voir les Russes, hein, ça c'est pas comme elle a déjà fait. Donc si, ayant endetté, on ne lui prête pas d'argent, elle dira « vous voyez, c'est parce que je peux gagner, parce que vous savez que je vais gagner, que je pourrais battre Macron ou quelqu'un, on m'empêche ». Voilà, d'accord, on ne donne d'accord. pas d'argent pour ça. Donc c'est en France pour se victimiser par avance.
Très intéressante analyse de Catherine. Je peux évoquer une deuxième raison qui n'invalide en rien la vôtre. Je dis deuxième parce qu'il peut y en avoir quelques autres derrière, mais qui a été avancée par un de mes deux ou trois politologues préférés hier sur LCI, Jérôme Jaffray, que je trouve assez pertinente. C'est pour enjamber les régionales. C'est pour ne pas subir la pression d'être tête de liste au régional dans les Hauts-de-France face à Xavier Bertrand, où si elle devait y aller, elle avait un risque non négligeable de perdre, ce qui aurait quand même été très très fâcheux pour sa candidature présidentielle. Et en se disant d'ores et déjà candidate, elle peut dire « Ah ben non, je ne peux pas être tête de liste au régional parce que je prépare la présidentielle. » Ça peut être un facteur aussi.
Mais je peux dire qu'elle va aussi enjamber les municipales, parce qu'il y a le paradoxe du Front National qui fait que elle ne fait pas de le Front Rassemblement National, qui fait en général peu de voix dans les grandes villes, beaucoup dans les petites villes de 5 000 à 30 000 habitants. Seulement, là où il y a, dans les petites villes, les candidats n'arrivent pas à constituer leur liste, parce que dans les petites villes, il y a encore... les gens ne veulent pas s'engager, ce n'est pas bien. Et puis, quand il faut trouver 33 personnes sur une liste, voyez, c'est très, très difficile.
Et alors, dans votre pêche ou chasse, je ne sais quel mot employer, systématique dans laquelle vous allez chercher les affiches et autres signes politiques, Zvonimir Novak, est-ce que dans la propagande faite par le Front National naguère et le Rassemblement National aujourd'hui, c'est le même genre de code que les autres ou est-ce que c'est très spécial ?
Ah oui, non, ça a changé. Ça a changé, mais on est tout de même sur la même ligne. C'est que, bon, c'est une entreprise familiale, hein, le Rassemblement National, bien entendu. Donc, l'objectif, c'est toujours de se présenter au présidentiel. Ça ne change pas. Mais le père, le papa de Marine Le Pen a tout essayé. Alors, parfois, on le retrouvait déguisé en chef indien.
Oui,
parfois, en Zorro.
Oui, exact.
J'ai tout vu.
Ça nous revient, en fait, ouais. Et Marine ne fait pas ce genre de clownerie.
Alors non, Marine, elle a choisi un autre cap, c'est d'être une couverture de magazine, c'est-à-dire lissée. C'est un lissage d'image.
Hein. Ouais, c'est intéressant parce qu'elle ne joue pas ce que j'ai appelé ici la pape, la prime au pitre dans les temps... voilà. Populiste, parce que Johnson, Boris Johnson joue à fond la pape, Trump joue à fond la pape, et Marine ne le fait pas. Mais probablement, vous nous donnez une des clés, c'est parce que son père le faisait en vérité.
Son père le faisait de façon immodérée, et c'était absolument impressionnant.
C'est un acteur, un grand acteur,
oui, c'est un
avec des textes derrière, et une culture qui lui permettait de jouer plusieurs personnages
c'est
aussi.
Ça. Hein. Donc il se mettait en scène et il changeait de costume très souvent. Et même, je l'ai vu en explorateur avec une longue vue. Il a été marin aussi, c'est-à-dire il tenait la barre. Hein, c'était son grand truc, c'est les grandes vagues, les forces de la nature. Donc on le voyait tenir une barre, etc. Marine Le Pen, elle n'est pas dedans. Elle est plutôt un peu dans une starisation d'image.
Pas pitre comme papa. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche, il y a un sujet que vous croyez people. Eh bien, il est devenu très politique. Vous allez voir dans quelques instants.
Zvonimir Novak, journaliste, professeur d'art appliqué et auteur du livre Le Grand Cirque électoral, une histoire visuelle des élections et de leur contestation aux éditions L'Échappée. Et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis ce matin.
Eh bien, vous croyez que l'affaire du Mexit de Harry et Meghan qui ont décidé d'aller vivre partiellement en Amérique du Nord pour ne pas avoir toutes les charges afférentes à l'appartenance à la famille royale, ça n'est qu'une histoire people. Vous croyez que ça n'est qu'une histoire du long feuilleton des Windsor ? Eh bien, pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement de l'Institut Montaigne qui surveille pour nous les médias internationaux, a repéré un article très intéressant de BuzzFeed du 13 janvier. BuzzFeed, BuzzFeed, pour ceux qui voudraient en savoir plus. BuzzFeed News. Enfin, un média a osé le faire. BuzzFeed a mis en avant, dans un article du 13 janvier sur son titre, 20 titres de presse, vous entendez bien, 20 titres de presse, comparant Meghan Markle à Kate Middleton, qui illustre, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qui n'existe pas, les deux épouses des deux fils du prince Charles et de Lady Di, qui illustre les causes de la crise traversée par la famille royale. Ces titres suggèrent que Meghan a été représentée de façon injuste, totalement biaisée, voire raciste, pour des choses pour lesquelles sa belle-sœur Kate a, quant à elle, pu être félicitée. Voici deux exemples que BuzzFeed a trouvés dans le Daily Mail. A noter qu'ils ont fait un travail de recherche bien au-delà de ce tabloïd pour regarder de près ce qu'ont pu couvrir la vie de la famille royale, Daily Express, Daily Mirror, Evening Standard, Telegraph, Times, Sun, etc. Et ils ont même donné un droit de réponse à ces tabloïds. Premier exemple, Kate, guillemets, une grossesse qui avance bien. La duchesse a été vue plaçant une main protectrice sur son ventre alors qu'elle quittait un événement officiel. Daily Mail, 22 mars 2018. Meghan, guillemets. Personnellement, je trouve que la main sur son ventre fait penser à ces autocollants à l'arrière des voitures, bébé à bord. Une telle signalisation. Comme si le reste d'entre nous, des harpies stériles, méritait de brûler vives dans nos voitures. Daily Mail, du 26 janvier 2019. Deuxième exemple, Kate. Des sources royales ont déclaré hier que la reine avait compris et approuvé la décision de William et Kate de ne pas passer le jour de Noël avec elle. L'un d'eux a déclaré « Sa Majesté comprend que c'est un dilemme auquel de nombreux jeunes couples sont confrontés et salue la grande proximité entre Catherine et la famille » de l'email du 16 décembre 2016. Meghan, la reine s'attend à voir la famille avec elle pour la saison des fêtes. Pour la reine, pour qui la tradition de la réunion de famille est une date clé dans son calendrier, l'absence de Harry et Meghan entraînera une grande tristesse. Ce sera aussi une source de frustration. Daily Mail du 13 novembre 2019. Incroyable, non, quand même.
Enfin, ce qui est incroyable, oui. C'est la différence de traitement sur la main sur le ventre. Oui, et là, oui, que la reine soit triste. Qu'il
non,
ait
mais
pas
dans
son
un
petit-fils.
Cas, on dit elle comprend très bien.
Oui.
Et elle approuve parce que ce sont des jeunes. Et dans l'autre, on dit elle ne comprend pas et elle est triste. Sur la même chose, quand même, Catherine. Vous allez défendre Kate parce que Kate,
comment
Catherine, c'est ça?
Non, je ne réponds même pas.
Oui, vous avez raison. Mais ça veut dire que quand même, et moi j'ai lu cette semaine aussi, lundi, un article dans le New York Times, qui était très intéressant pour dire que les sondages et les tabloïds tombent à bras raccourcis contre Meghan et Harry. Mais en revanche, la minorité noire au Royaume-Uni approuve massivement et disent qu'ils auraient dû faire ça depuis très longtemps parce qu'elle est absolument stigmatisée pour sa race. Parce qu'on a parlé de son ADN exotique, de quel parcours, d'une famille qui vient de l'esclavage, enfin des trucs. Non, franchement, je vous assure, c'est intéressant, parce que derrière ça, il y a du clivage et du débat politique. Il y en a eu aussi, pendant la même période, en Australie, où heureusement la situation s'améliore, parce que la pluie est enfin arrivée. Mais néanmoins, le Premier ministre australien continue à être conspué. Pourquoi ? Mais parce qu'il avait fait au début une erreur hallucinante. Il est parti en vacances à Hawaï avec son épouse. Écoutez, il a fini par s'apercevoir que c'était pas exactement ce qu'il fallait faire.
I've obviously returned from leave and I know that that has caused some great anxiety in Australia and Jenny and I acknowledge that.
Je suis évidemment rentré de congé et je sais que cela a causé beaucoup d'inquiétude aux Australiens. Jenny et moi en avons pleinement conscience, Jenny étant son épouse. Et cette déclaration, c'était CBS News le dimanche 5 janvier. Donc, il y a des moments où on se dit, mais comment est-ce que les politiques peuvent être les dirigeants? Scott Morrison, premier ministre australien, il vrai un peu par hasard à la suite de querelles internes dans son parti.
Qui nie le réchauffement climatique aussi.
Oui, hein. Donc, un petit peu moins que son prédécesseur.
Alors que depuis des années, avant même ces incendies catastrophiques, le pays est soumis à des périodes de sécheresse intense qui pèsent sur les cultures. Enfin, c'est un pays, depuis des années, on voit les effets négatifs du réchauffement climatique. Alors là, c'est vrai qu'il a eu tort. Il faut toujours être présent auprès des gens qui souffrent dans son pays, ça c'est sûr.
Zvonimir Novak ?
Oui.
Vous voulez avoir quelque chose à nous dire ?
Oui, alors,
Novak.
J'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a des manifestations contre le Premier ministre. Et quand on voit la composition des manifestations, on comprend très bien qu'il y a des manifestations, parce que c'est très grave. Il y a le feu dans la plaine, et donc il y a des animaux, je ne sais pas combien, hein, c'est des millions.
Un milliard, on a dit.
Voilà, un milliard, ce qui est tout à fait... donc, on comprend très bien qu'il y a des réactions, et notamment très fortes de la jeunesse. Il y a, dans ces mouvements, dans ces manifestations, les intermondialistes, mais il y a aussi Extinction Rebelle, qui est une organisation, et c'est la première fois qu'on a vu ça, une organisation d'activistes, d'activistes écologistes qui sonnent la sonnette d'alarme de façon très violente.
Ça, c'est bon pour vous, ça va faire le miel de votre prochain livre. Alors, il faut qu'on vous parle aussi, parce que ça a quand même été un des événements de la semaine, du sommet G5 et de la, entre guillemets, guerre au terrorisme au Sahel. Mais avant... Monsieur Novak, qui est très très penché sur les affiches, en a repéré une dont il aimerait nous dire deux mots. Alors je vous réserve cette petite surprise dans quelques instants.
Vous écoutez Mediapolis jusqu'à 11h avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Ils reçoivent ce samedi le journaliste et professeur d'art appliqué Zvonimir Novak, qui vient de publier aux éditions L'Échappée Le Grand Cirque Électoral, une histoire visuelle des élections et de leurs contestations.
Zvonimir Novak, monsieur affiche, monsieur tract, monsieur photo, monsieur libelle, vous seriez parti très déçu de cette émission si vous n'aviez pas pu nous dire quelques mots de l'affiche pour les élections municipales à Paris, si j'ai bien compris,
oui.
De la maire actuelle, Anne Hidalgo. Alors, allez-y.
Alors, il y a deux choses, je voudrais parler de deux choses. mais très rapidement.
Ah, deux carrément, oui.
Ah, oui, oui. Alors, la première, qui, la, c'est, donc je suis cette campagne des municipales à Paris, que je trouve tout à fait passionnante, parce que ça bouge dans tous les sens, tous les jours, et n'importe comment, et tout le monde se présente, et se, enfin voilà, les étiquettes volent, enfin on est dans un schéma... dans le grand cycle électoral. J'ai donc, je suis donc la campagne. Alors, il y a le premier point de la campagne, c'est M. Villani qui sort une affiche il y a plusieurs mois, une affiche tout à fait incroyable. On le voit, vous savez, comme les petits personnages du dessinateur Eiffel, d'une affaire du Parti communiste, en personnage un peu croquignol, un peu amusant. Alors ça, c'était très curieux. Et puis là, vient de sortir l'affiche officielle de campagne d'Anne Hidalgo. Alors tout est vert. C'est-à-dire que le rose a disparu totalement. Il n'y a même pas une touche de rose. Et c'est des dégradés de vert.
Et
c'est exactement le même vert qu'a utilisé Lionel Jospin, je crois que c'était en 2002, pour la campagne des présidentielles.
Non, je pense que c'est 1995, le vert de Jospin.
Ah oui, c'est 1995. Oui. C'est un vert bureaucratique, j'appelle
avec
ça.
Avec le
un
vert administratif. Midi et l'atelier, tout
en vert. Qu'est-ce que c'est qu'un vert administratif ?
Très froid.
Et le vert Hidalgo, il est aussi alors, administratif
alors,
ou
elle,
il est réchauffé ?
Alors non, on a plusieurs verts, on a même un vert
Ah oui, il y a plein de verts, oui.
Etc. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que sur cette affiche de campagne, elle paraît beaucoup plus jeune que sur l'affiche précédente de 2004. Alors ça, c'est très... Oui, 2014, pardon. Oui. Alors je me dis, mais par quel miracle elle a rajeuni ? Alors que ça doit être une fonction extrêmement fatigante.
C'est des éclairages.
C'est très impressionnant.
De la photo.
C'est-à-dire qu'elle est encore plus belle qu'avant.
Photoshop a fait des progrès, remarquez.
Oui, alors voilà.
Ça, c'est... D'accord. Mais enfin, cette idée de vert administratif, c'était quand Jospin disait « je vais m'ébrouer dans le champ de la démocratie ». C'était ça, voilà.
Oui, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'une candidate qui est quand même... Alors, s'il y a une candidate de gauche, c'est Anne Hidalgo. Elle regroupe dès le premier tour le soutien du Parti socialiste, du Parti communiste, je pense de génération, sauf erreur de ma part. Donc c'est
oui, mais aujourd'hui, les Français, les socialistes, voyez dans quel état est la gauche et la droite la droite républicaine, enfin, je veux dire, la droite, on ne sait pas. Tandis que quand on est vert, là, on est sûr de taper dans le mille parce que ça dit quelque chose aux jeunes. Ça, c'est une couleur qui a du sens. L'écologie, c'est aujourd'hui une campagne qui a du sens et puis ça vous évite de prendre des positions politiques et tout ça. Donc, c'est une sorte de grande paravent. Puisque je suis verte, vous pouvez voter pour moi.
Vous avez raison. Néanmoins, c'est quand même un signe qui restera. Je me réjouis d'avoir bousculé notre conducteur pour vous donner la parole sur ce sujet, Zvonimir Novak, parce que c'est quelque chose qui restera historiquement un moment où le rose, c'est pas seulement le PS qui a disparu, c'est pas seulement le point qui a disparu, c'est la totalité de la couleur pour y substituer une couleur identifiée totalement à un autre mouvement politique, c'est-à-dire la couleur verte. Ça, c'est quand même à un moment dans l'histoire, à média politique, de la plus haute importance. Alors, on ne va du coup pas avoir le temps de parler du sommet Sahel-G5. Il faut dire qu'il n'a pas donné lieu à des événements médiapolitiques d'importance
Sauf que le président, moi je pensais qu'il voulait se désengager. Au contraire, il a rajouté 220 militaires.
Voilà, il y a deux choses. Il y a d'une part que malgré la contestation croissante, semble-t-il, de la présence française dans certaines populations, et qu'il est menacé de se retirer, il a augmenté. Et d'autre part, pour les gens que le sujet intéresse, dans la presse, pour la première fois, j'ai lu des interrogations, des analyses de spécialistes assez critiques sur la façon dont se déroulent les opérations dans le Sahel. Alors, on va quand même rendre hommage d'une certaine manière, à cette région du monde qui souffre beaucoup d'ailleurs d'attentats multiples, particulièrement dans le triangle des trois frontières.
Et c'est là où les 220 militaires sont envoyés.
Absolument, oui.
Mais enfin, hier... les forces armées du G5, les cinq pays, ont réussi à tuer une quinzaine de terroristes, détruire 20 véhicules, saisir des armes. Vous voyez, il y a...
Et je vous ai choisi une très belle chanson d'un grand chanteur malien qui s'appelle Salif Keita. Et la chanson date de 1995 et elle s'appelle Folon, ce qui signifie, et est assez révélateur, oui. Autrefois, on ne t'interrogeait pas.
Folon a tombé qu'était né.
Salif Keïta, Folon et Tegninika, autrefois on ne t'interrogeait pas, Folon, autrefois, chanson de 1995. Merci beaucoup à Zvonimir Novak d'être venu à Mediapolis ce matin. Merci à Jean-Luc Arblat qui a réalisé l'émission, à Capucine Patouillet qui l'a préparée, à Justine qui l'a fait vivre, à Catherine Savatsoa, à tous. Vous pouvez faire écouter par vos amis ou réécouter vous-même l'émission en podcast sur europe1.fr. Et salut à l'ami Mariotte aussi.
Eh ouais, parce qu'on va parler tradition française en plus à sa table des bons vivants aujourd'hui. Bonjour Laurent.
Merci Catherine et Olivier. Bonjour Justine. À l'heure où le restaurant Paul Bocuse perd une étoile au guide Michelin, on va s'intéresser à la cuisine traditionnelle bourgeoise. Chère à Monsieur Paul, elle revient en force, figurez-vous. Et nous partagerons un plat du Nord convivial avec notre invité Bruno Solo. Alors pour savoir ce que c'est, restez bien avec nous. À tout de suite.
Quel teasing Laurent, à tout de suite.